Voilà, pour ce matin, nous avons déjà entendu la première lecture, en fait, avec le psaume 16 dans notre louange. Je lirai donc quelques versets dans la première épître de Pierre au chapitre 3 et 4. Au verset 17, nous lisons « Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher en prison. À ceux qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez de l'amour, un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Et la page d'évangile qui inspirera notre méditation ce matin se trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 25, les versets 31 à 46. Jésus leur dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Seigneur, ta parole est source de vérité, sanctifie-nous par la vérité.
Voilà, à l'écoute de cette parabole, comme ça, on peut en tout cas déjà remarquer que les récompensés, comme les punis, n'ont pas conscience de faire bien ou de faire mal. C'est peut-être sur ce point qu'il faudrait méditer ce matin. Mais la semaine dernière, quelqu'un d'un peu inquiet comme ça m'a interrogé par rapport au paradis, aux conditions d'admission, aux conditions d'entrée au paradis. Plus exactement, est-ce qu'un chrétien peut rater l'entrée ? La question était intéressante. Alors, nous avons un peu survolé le sujet de l'enfer et du paradis, mais ça m'a donné envie justement de revenir avec vous sur ces réflexions ce matin, parce que c'est aussi un thème qui est revenu sur le tapis pendant un bon moment lors de notre dernière étude biblique par Zoom cette semaine, là, jeudi. Et c'est donc un thème qui, 2000 ans après, travaille encore, ça titille encore, donc je me dis que ce serait pas mal d'y travailler. Et ça titille, et c'est probablement légitime, parce que si nous lisons les évangiles sans préjugés, nous voyons quand même que Jésus parle une cinquantaine de fois de l'existence d'un lieu de supplice, que nous appelons enfer, inferus, hein, les régions inférieures en latin, mais ce qui est sous le sol et ce qui est le domaine de la mort, d'une manière générale, le lieu de la mort. Bref, ce sera notre thème de réflexion ce matin. Un chrétien doit-il croire à l'existence d'un enfer et d'un paradis ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait avec ces quelques paroles que les évangélistes ont peut-être même eux-mêmes fait dire à Jésus ? Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup commenté, vous imaginez, à travers les siècles. Il y a même eu un temps de notre histoire où dans l'Église, la prédication chrétienne comportait une mention obligatoire à l'enfer. Imaginez, c'était tous les dimanches, on y avait droit. C'était à l'adresse, évidemment, des malcroyants, des hésitants, des croyants tièdes ou des réfractaires. Et heureusement, on s'en est débarrassé. Et même de nos jours, la notion même d'un tel lieu de châtiment, ça nous dérange, ça nous choque, ça nous scandalise même. Ça nous irrite qu'on puisse encore prêcher les choses pareilles. Et tant ça semble contredire notre foi en un Dieu bon, en un Dieu d'amour. Alors aujourd'hui, ce n'est plus aussi facile d'en parler qu'autrefois, mais essayons. Déjà, toute réflexion sur le sens de cette doctrine, plutôt difficile, doit commencer par une constatation un peu surprenante. Si la notion de paradis est déjà présente dans les tout premiers chapitres de la Bible, déjà dans la Genèse, et au deuxième chapitre, c'est déjà là, il faudra attendre l'Évangile, et ce n'est qu'avec l'Évangile que l'enfer apparaît, l'enfer proprement dit. Les Écritures hébraïques, notre Ancien Testament, parle plutôt de Sheol, c'est-à-dire un séjour des morts situé sous la terre. Le lieu sombre, le pays de l'oubli, le pays dont on ne revient pas, dont personne ne remonte. Et puis, les hommes, à travers l'histoire, ont pensé, ont commencé à réfléchir et se sont dit, si Dieu est le Dieu de la vie, peut-il vraisemblablement se résigner à ce que la mort est le dernier mot ? Alors des croyants, là encore, ont commencé à penser la foi et à déclamer une certitude un peu folle d'ailleurs. Tu ne peux abandonner mon âme au Sheol. Tu ne peux laisser ton ami voir la fosse. Ça, c'était dans le psaume de David, donc 1000 ans avant Jésus. Ce psaume que nous avons lu tout à l'heure. Leur espérance, contre toute espérance, a fini par porter certains en Israël à attendre une résurrection à la fin des temps. Et cette attente de la foi est entrée dans l'histoire avec le Christ, par le Christ, premier-né d'entre les morts, et ainsi aîné d'une multitude de frères, comme dit Romains 8. La foi dans le Christ ressuscité donne la certitude que la mort n'est pas le sort inéluctable de l'humanité. Bref, c'est dans ce contexte de réflexion eschatologique que naît vraiment grandit la notion d'enfer. Et justement, Jésus en parle. Et lui, loin d'offrir des descriptions littérales et objectives des réalités spirituelles, les paroles de Jésus ont plutôt pour but de nous faire entrer dans des vérités sur Dieu et sur nous-mêmes lorsqu'il en parle. Jésus ne parle et n'agit que pour transmettre la joyeuse nouvelle de ce que Dieu est en train d'accomplir dans le monde, et puis pour inviter les humains à y participer par un oui qui engage tout leur être à sa suite. Et en même temps, bien sûr, dans cette annonce joyeuse de ce qu'il y a à vivre, Jésus adapte ce message à la condition de ses auditeurs. Il ne parle pas le même langage à tous. Pour se faire comprendre, il utilise les catégories et les expressions familières à ses interlocuteurs, un peu comme Paul, après lui, il cherche à se faire tout à tous afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. C'est comme ça que lorsqu'il est confronté à des hommes qui refusent de le prendre au sérieux, notamment les élites de la nation, qui estiment qu'elles savent déjà tout sur Dieu et sur ses desseins, eh bien Jésus emprunte des formules un peu fracassantes, des images fortes, un peu comme le faisaient les prophètes, pour tenter d'ébranler leur arrogance. Oui, il lui arrive de menacer les maîtres de la religion qui se croient irréprochables, mais qui en fait occultent le chemin de Dieu avec des histoires de géhenne de feu. La géhenne ou le Valinum, c'était en fait près des murailles de Jérusalem, un lieu où les ordures brûlaient. Et donc elles brûlaient en permanence, c'était un feu qui ne s'arrêtait jamais. Et si Jésus parle comme ça avec des images fortes, c'est qu'il veut tout tenter pour essayer de pénétrer dans la cuirasse endurcie de tel ou tel groupe religieux. Mais on remarquera que jamais il ne joue avec la mauvaise conscience. Au contraire, lorsqu'il se trouve en face de personnes qui se croient loin de Dieu, un collecteur d'impôts, une femme adultère, une prostituée, un riche compromis, il n'a toujours que des paroles d'accueil et de compassion. Des paroles de compréhension aussi pour tous ces gens qui viennent lui parler, le rejoindre, l'écouter. Justement, l'un des reproches contre lui qui lui sera fait, c'est qu'il se fait l'ami des pécheurs. Il mange avec les pécheurs. Alors vous le comprenez, ce serait le pire des contresens que de s'appuyer sur quelques paroles un peu sévères de Jésus pour essayer de faire peur et d'utiliser cette peur pour arriver à ses propres fins, fussent-elles spirituelles. Celui qui fait ça propose une caricature de Dieu qui éloigne d'une foi vraie, saine, paisible, tranquille, libre. Mais quand même, mes amis, admettons un instant de supporter encore quelques questions impertinentes. Si l'enfer dont Jésus parle existe, alors qui l'a créé? Et pourquoi? Ça ne peut être que Dieu qui l'a créé, mais alors pour qui? Pourquoi? Eh bien, notre parabole de Jésus nous donne peut-être un élément de réponse. Vous l'avez peut-être entendu dans la lecture, Jésus parle du feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Bref, il semblerait en tout cas que l'enfer dont parle Jésus, s'il existe, n'a pas été conçu pour l'homme, mais pour tout ce qui fait obstacle à son bonheur, tout ce qui le sépare des autres, de Dieu, de lui-même, tout ce qui fait division dans sa vie, tout ce qui est de l'ordre du diable, c'est-à-dire qui est lancé en travers et qui divise. Donc l'enfer, s'il existe, n'est pas présenté comme un lieu de punition préparé pour les humains. En revanche, quelle est l'intention pour eux depuis le commencement? Jésus le précise dans notre même parabole, et vous l'avez entendu. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Voilà pour les humains. L'enfer est fait pour le diable et pour ses anges, pas pour l'homme. Et puis quand on y pense un peu, quel Dieu pervers d'ailleurs préparer un tel lieu de châtiment où certains de ses enfants un peu désobéissants iraient souffrir pour l'éternité. Et puis l'enfer est souvent pensé comme un lieu où Dieu n'est pas. Mais quand on y réfléchit un peu, où Dieu n'est pas ? Où est-ce qu'il n'est pas? Allez, un autre paradoxe mystérieux pour stimuler notre réflexion. Bizarrement, l'existence de l'enfer n'empêche pas les âmes d'être heureuses au paradis. Mais comment vivre une éternité de bonheur à côté d'autres qui vivraient une éternité de souffrance? Il y a quelque chose là qui nous paraît, il y a un côté invraisemblable de cette histoire. Les habitants du ciel, pleinement heureux du bonheur même de Dieu, tout en connaissant l'existence de l'enfer et ceux qui sont des damnés. On a du mal à concilier ces deux idées, mais voilà, je vous laisse y réfléchir. Alors si toutes les religions, toutes les fois, toutes les cultures ont essayé de comprendre, ou plutôt d'imaginer ce à quoi l'homme devrait s'attendre après son séjour sur terre, la réponse de l'Église, elle, en interprétant et en extrapolant des images de la Bible, nous a légué deux voies possibles de cheminement de l'âme après la mort. Une vie facile, au ciel, une vie de souffrance, en enfer. Alors, ces notions d'enfer, de ciel, de paradis, dont parle un peu la Bible et dont l'Église s'est faite le porte-voix pendant des siècles, qu'en fait-on? Que faire de cet héritage qui s'est imprimé en nous, dans notre culture, dans notre inconscient collectif? Faut-il? Peut-on? Doit-on encore y croire au XXIe siècle? Si l'enfer et le paradis existent, certainement déjà ils ne sont pas là où l'imagerie biblique traditionnelle les place. Peut-on croire et imaginer qu'un enfer promis par l'Église soit pire que celui connu par tous ceux qui subissent des violences, quel que soit le contexte, quelle que soit la guerre, quel que soit l'ennemi, quelle que soit la souffrance? Non, les lieux d'enfer ont existé, probablement depuis toujours, et perdurent, aujourd'hui encore, chaque jour, sur terre. Et j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'est pas nécessaire d'aller s'en inventer un autre encore plus cruel quelque part. Dans vos cantiques, sur la couverture qui referme votre recueil, se trouve en dernière page le Notre Père et le symbole des apôtres. C'est une confession de foi très connue, qui est récitée en général chaque dimanche dans nos cultes ou dans nos messes. Et vous remarquerez que ce texte, à peu près à la moitié, fait référence à la descente du Christ en enfer. Cet enfer que l'imagerie médiévale donc place sous terre. Alors il y a bien sûr beaucoup d'interprétations possibles de ce séjour du Christ en enfer, qui mériterait une réflexion plus approfondie, peut-être même toute une prédication là-dessus. Mais franchement, ce n'est pas parmi les choses principales qu'on a envie de croire en priorité de Jésus. Je suis même étonné qu'on ait placé cette phrase dans une confession de foi. Mais l'actualité de son message, c'est que Jésus nous rejoint dans nos enfers, dans nos maladies et dans nos deuils, qu'il nous rejoint dans nos souffrances et dans nos famines. Il nous rejoint dans nos peines, dans nos doutes, dans nos questions et dans nos désespoirs. Il est là dans les sous-sols où se cachent des civils et des soldats en Ukraine alors que pleuvent les bombes à l'extérieur. Oui, le ressuscité est bien là, dans cet enfer sur et sous terre. Et le paradis alors? Où se passerait-il dans tout ça? On comprend depuis si longtemps les cieux comme un lieu mythique, éloigné, inaccessible à nous, les vivants. Mais mes amis, toute réflexion sur l'imagerie du ciel et de l'enfer doit nous ramener à regarder autour de nous, à sortir enfin de nos confinements spirituels. Quand nous sortons là, de cette église, quand nos pas nous mènent dans Soho Square, que nous regardons autour de nous, nous ne pouvons pas ne pas remarquer qu'au ras du sol dorment des réfugiés, des sans-abri, des sans-toit. Sans-toit, T-O-I-T, mais aussi des sans-toit. Oui, les notions d'enfer et de paradis commencent à la hauteur de ces bancs sur lesquels tant d'hommes et de femmes voient les minutes, les jours, les semaines, les mois, les années de leur vie s'égrener comme ça dans un non-sens, dans l'inconfort et dans la misère. Eh bien, le royaume de Dieu, dont parle Jésus, devrait donc commencer ici-bas, au ras du sol, et maintenant. Vous savez, plutôt qu'un lieu dans l'espace, les cieux bibliques sont plus probablement une métaphore d'un monde où tout se passe bien, où tout va bien. Et c'est normal. Comme la lune qui revient millénaire après millénaire, toutes les 4 semaines, dans la Bible, le ciel symbolise un lieu où tout est réglé et où tout va bien. Comme aujourd'hui dans l'univers biblique d'il y a 20 siècles, la perfection n'était pas de mise, Qu'est-ce que le ciel alors dans la Bible ? Eh bien, c'est un lieu stable, un lieu parfait, un lieu réglé, un lieu mythique où tout fonctionne bien, où il n'y a plus ni guerre, ni cri, ni famine, ni souffrance, ni trafic humain, ni traumatisme, ni souffrance d'aucune sorte. Le ciel est alors entendu comme un symbole d'un monde débarrassé des toxines existentielles qui touchent chacun et chacune, ici et maintenant. Et non pas la promesse d'une belle vie qui viendrait après la mort, et celle d'un lieu céleste auquel il faudrait aspirer, auquel il faudrait rêver, ou pire encore, qu'il faudrait mériter. Le ciel est terrestre et contemporain, ouvert et initié, inauguré par le Christ il y a 2000 ans, et tout comme l'univers est en expansion, son royaume est en expansion. Les histoires, les instructions que nous recevons dans les évangiles sont alors là pour nous aider à mettre ce règne de Dieu toujours plus en place dans notre monde. Alors, le paradis existe-t-il ? Oui. Mais on l'aura compris, il est à construire. Et chacun, chacune a sa part à faire, là où il est, avec ce qu'il a, avec ce qu'il est, pour favoriser toujours plus, et dans la grâce, son expansion. Amen.